Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, coup de projecteur sur une couleur mal aimée et d'actualité, la couleur jaune. Nous verrons pourquoi cette couleur célébrée dans l'Antiquité gréco-romaine est devenue la moins aimée des couleurs de base. Au cours de l'histoire, le jaune fut synonyme de traîtrise, de tromperie, de duplicité. Longtemps considéré comme déshonnête, le jaune est encore peu visible dans notre quotidien, même s'il existe un bon jaune associé à l'or et au doré, à l'énergie solaire et à la fertilité des champs de blé. Nous évoquerons le jaune dans notre vie quotidienne, carton jaune dans les stades de football, maillot des vainqueurs du Tour de France, moutarde, huile, mayonnaise, citron et miel dans nos cuisines, sans oublier les panneaux de signalisation, les emojis ou encore la blondeur longtemps cinématographique. Avec nous ce matin, le grand historien médiéviste Michel Pastoureau et le designer Jean-Gabriel Causse. Et vous, aimez-vous la couleur jaune? Qu'évoque-t-elle pour vous? Est-elle présente dans votre vie? L'évitez-vous soigneusement, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Tout à l'heure, Julia Foyce évoquera une couleur qu'elle n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, vous l'entendrez. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver.
Merci.
Vous êtes historien, spécialiste des couleurs, des images, des emblèmes et du bestiaire. Vous êtes directeur d'études émérite à l'école pratique des hautes études. Et après avoir consacré des livres passionnants au rouge, au vert, au bleu, au noir, vous publiez au seuil jaune, l'histoire d'une couleur, un somptueux livre richement illustré et très érudit que j'ai une nouvelle fois adoré. Bonjour Jean-Gabriel Causse.
Bonjour Ali Rebbi.
Designer, romancier, membre du comité français de la couleur, vous avez publié L'étonnant pouvoir des couleurs aux éditions du Palio, un livre qui regorge d'informations. Michel Pastoureau, vous le dites à chaque parution de vos livres, définir une couleur, c'est toujours un exercice difficile.
Oui, définir déjà ce qu'est la couleur, ça n'est pas évident. Je participe quelquefois à des rencontres pluridisciplinaires avec des chimistes, des physiciens, des peintres, des sociologues, des linguistes, des historiens. Nous sommes très contents de nous retrouver pour parler des couleurs, mais au bout de 3 minutes, on a compris qu'on parlait pas de la même chose. Et alors définir ce qu'est une couleur, ce qu'est le jaune par exemple, ça n'est pas évident. Si on ouvre un dictionnaire, on va voir jaune, adjectif qui est de la couleur de l'or, du safran, du miel, etc. Ça n'est pas faux, mais ça n'est pas une définition. Et si on trouve, ce qui est aussi fréquent, jaune, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde, c'est une définition de physicien, ça n'est pas faux bien sûr, mais les sciences humaines, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'une telle définition? Rien, absolument rien.
Elle est tracée une histoire du jaune, vous le dites, hein, en Occident ça a été une entreprise plus difficile qu'avec vos livres consacrés au rouge ou au bleu. Pourquoi ?
La raison principale vient de ce que les documents d'histoire sont peu bavards sur le jaune, ou moins bavards que pour noir, blanc, rouge et même bleu et vert. Donc pour l'historien que je suis, j'ai dû un peu étendre le concept de jaune, et comme l'or, lui, est omniprésent dans l'histoire de l'Occident, ce livre est consacré à la fois au jaune et à l'or. Mais il y a quand même des trous. Par exemple, le livre part du paléolithique et va jusqu'à aujourd'hui. Il y a environ 7 ou 8 siècles où j'ai très peu d'informations. C'est entre la chute de l'Empire romain et l'an 1000. Là, les documents sont pas très bavards sur la couleur. Et blanc, rouge, noir écrasent tout. Les autres sont très discrètes.
Raconter l'histoire du jaune, ça permet de comprendre pourquoi c'est devenu une couleur discrète dans notre vie quotidienne.
Oui, ça chacun peut l'observer. Dans notre vie quotidienne, il y a du jaune bien sûr, mais pas beaucoup. Quand on se promène dans la rue, le spectacle coloré met en scène peu de jaune. En général, c'est la signalétique qui est jaune, plus les taxis et les boîtes à lettres. Et dans nos appartements, dans nos maisons, il y a un petit peu de jaune, mais ce sont toujours des accents. Des petites touches.
Jean-Gabriel Causse, vous confirmez ?
Je confirme et je le regrette. C'est pour ça que je suis très très heureux que vous fassiez une émission sur le jaune parce que je suis l'un des plus fervents défenseurs et ambassadeurs du jaune. Donc
pourquoi ?
Merci. parce que c'est une couleur absolument extraordinaire, ne serait-ce que pour notre morale. Le jaune, c'est un peu comme le rose. Quand vous regardez du jaune, ça vous fait du bien. Vraiment, c'est la couleur du bonheur, d'une certaine façon, qui en plus, par rapport au rose, a la faculté de vous faire travailler l'intellect. Ça va dans votre psychisme, vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus apte à travailler. C'est vraiment une couleur absolument formidable.
C'est un ressenti personnel ou c'est repose sur des études scientifiques?
C'est des études. L'université de Manchester, par exemple, on a demandé à des personnes quelle était leur humeur et quelle était la couleur qu'ils associaient à cette humeur. Et une majorité de gens qui se trouvaient plutôt heureux en ce moment-là disaient « ma couleur, ce sera le jaune ». Alors que, comme va très bien nous l'expliquer M. Pastoureau, c'est pourtant une couleur que beaucoup de gens détestent. Mais pourtant, quand on pense au bonheur, on pense aussi au jaune. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le soleil. Quand tout le monde est heureux de voir du soleil, le soleil est jaune.
C'est la moins aimée des couleurs de base, le jaune, encore aujourd'hui?
Oui, encore aujourd'hui, les enquêtes d'opinion le montrent. Ce n'est pas qu'elle est détestée, mais elle est rarement citée comme couleur préférée, et ce depuis la fin du 19e siècle, c'est depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, quelle est votre couleur préférée, donc ça fait presque 150 ans. Ce qui est fascinant, c'est que les résultats sont toujours les mêmes, en Europe en tout cas, à peu près identiques pour les hommes et pour les femmes, et l'ordre, c'est bleu, vert, rouge, noir, blanc et jaune en dernier, parmi les six couleurs de base, avec un pourcentage très faible c'est constant. Ça ne veut pas dire qu'elle est absolument détestée, mais on la cite jamais comme couleur préférée ou rarement.
D'où vient le mot jaune? Quelle est son étymologie?
Alors, c'est un terme germanique à l'origine. Le grec et le latin n'avaient pas de terme de base. Il y avait plusieurs mots faibles. Et quand il y a eu les invasions germaniques, pour certaines couleurs, le vocabulaire germanique s'est imposé, ce qui est un document d'histoire pour l'historien. Hein. Quand le latin n'a pas grand-chose à fournir, le terme germanique s'impose. C'est le mot gelbe, dans ses formes anciennes, en germanique commun, qui donne un latin très tardif, galbus, galbinus, et puis dans les langues romanes, jaune, giallo, même yellow anglais appartient à la même famille. Voilà l'étymologie. Et au départ, ça désigne plutôt les jaunes acides, les jaunes citron, nous dirions-nous aujourd'hui. Et c'est ressenti déjà dans la Rome antique comme une couleur pas très agréable. Ça pourrait se traduire le jaune des Germains, sous-entendu, c'est pas une belle couleur.
Alors je cite Goethe en exergue de votre livre, le jaune est une couleur agréable, douce et joyeuse, mais placée dans l'ombre, elle devient vite déplaisante et le moindre mélange la rend sale, triste, laide et de peu d'intérêt.
Oui, c'est le grand problème du jaune. Il est très influencé par la lumière ambiante, par les couleurs voisines, par le support. Donc beaucoup de peintres, notamment, reconnaissent que c'est une belle couleur. Delacroix, par exemple, a écrit des très belles lignes sur le jaune. Mais il suffit d'un rien pour que le beau jaune devienne un vilain jaune. C'est vrai aussi d'autres couleurs, mais pas à ce point-là. Hein. Le jaune est fragile dans sa beauté, en quelque sorte.
Il y a un adjectif qui est parfois collé au mot jaune et qui est très, très désagréable. C'est jaune pisseux, par exemple.
Jaune pisseux, jaune acide, jaune acidulé. Oui, c'est ressenti comme quelque chose d'un peu agressif. Et c'est presque injuste parce que tant en teinture qu'en peinture, le jaune est quand même plus solide que le vert, par exemple. Mais on lui associe des adjectifs qualificatifs qui ne sont pas très valorisants.
Jean-Gabriel Cosse.
Oui, c'est vrai que moi je vois en peinture, celui qui a vraiment lancé un petit peu le jaune, c'est Van Gogh, hein, avec ses fameux tournesols. Mais c'est vrai qu'avant Van Gogh, M. Pastoureau certainement sera d'accord avec moi, il y avait très très peu de tableaux entièrement jaunes. C'était vraiment pas une couleur qui inspirait les peintres.
Tout à fait. La promotion du jaune, elle commence un peu en peinture avec la peinture de plein air, l'invention du tube et les impressionnistes et post-impressionnistes. Mais comme vous le dites très bien, ce sont surtout Van Gogh et Gauguin qui ont lancé la mode du jaune. Relayé plus tard par les fauves et puis la peinture abstraite moderne.
Alors il y a bien longtemps, au paléolithique et au néolithique, le jaune est très présent dans la vie quotidienne.
Oui, alors il est, on ne sait pas très bien la vie quotidienne au paléolithique, mais sur les peintures des grottes, il y a pas mal de jaune et en général les pigments sont à base de terre argileuse, riche en hydroxyde de fer, et ça permet de faire des camailleux de jaune, qui tire en général vers le rouge ou vers le brun. Il y a déjà une chimie des couleurs, d'ailleurs, chez les peintres du Paléolithique. Chauffer de l'ocre jaune, ça donne de l'ocre rouge, et le chauffer encore un peu plus, ça donne du brun. Et on sait déjà le faire, 32 ou 34 000 ans avant notre ère. C'est quand même impressionnant. Et ça va être une couleur favorable, admirée, bénéfique, jusqu'à la fin de l'Antiquité, même un peu au-delà.
Alors le jaune a mauvaise réputation, on le verra tout au long de cette émission, mais pas l'or.
Non, voilà, l'or, si on fait un bilan, prend sur lui tous les bons aspects de la couleur. Chaque couleur est ambivalente et a ses bons et ses mauvais aspects. On a l'impression qu'à partir du Moyen-Âge, le bon jaune c'est l'or et que le jaune stricto sensu, eh bien, il lui reste les mauvais aspects de la couleur. Je simplifie un peu, mais ça va dans ce sens.
Dans la mythologie gréco-romaine, le jaune, l'or sont très présents. Jason et la toison d'or, les pommes d'or du jardin des Hespérides, l'or du fleuve Pactole.
Voilà, l'or c'est une richesse, c'est une prospérité, c'est quelque chose à conquérir, c'est un trésor, avec aussi ses aspects ambigus, mais il est très valorisé, et pas seulement dans les mythologies, il l'est aussi dans la culture matérielle et dans la vie quotidienne, en tout cas chez les Grecs et chez les Romains.
Aimez-vous le jaune? Ben, dites-nous tout au 01 45 24 7000, ou bien l'évitez-vous soigneusement. Vous pouvez également réagir sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Marliot et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter un titre de 1968. Cette année-là naissait la divine Sandrine Kiberlin et disparaissait le cosmonaute Yuri Gagarin. Belle journée à l'écoute de France Inter.
In the time where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
Yellow Submarine, évidemment.
Hey, vous oubliez pas, il y a une yellow chez moi ce soir.
C'est quoi?
Une yellow, ça veut dire jaune.
Oui, merci, j'avais compris.
Grand bien vous fasse.
Avec toutes les soirées jaunes que t'organises, pas peur qu'on t'appelle le roi de la pisse.
Sur France Inter.
10h20 et on s'intéresse ce matin à la couleur jaune en compagnie de l'historien Michel Pastoureau et avec le designer Jean-Gabriel Causse.
Voici un croquis d'un semeur, champ de blé mûr, d'un ton d'ocre jaune avec un peu de carmin. Il y a bien des rappels de jaune dans le terrain, jaune de chrome, des tons neutres résultant du mélange du violet avec le jaune, mais je me suis un peu foutu de la vérité de la couleur. Van Gogh, le 18 juin 1888.
La couleur aide pleinement un langage. Ce tournesol, ces tournesols, ces bouquets de tournesols sont la quête de ce qu'il appelle donc la haute note jaune.
Le jaune, c'est la première couleur que je veux. Puis je suis devenu aveugle. Et à présent, il ne me reste qu'une seule couleur sûre. Et cette couleur-là, c'est le jaune.
Monseigneur, il est l'or, l'or de se réveiller.
Il en manque une.
Le jaune, dans l'histoire des mouvements sociaux, il n'a pas bonne réputation.
Notre héros n'est qu'un foie jaune. Va nous attendre en bas.
Prends les mains,
Judas ! On est fiers de la porter, cette étoile, nous.
Vous voyez, c'est un petit bout de tissu. C'est extrêmement lourd, extrêmement dur à porter pour une enfant de 11 ans. J'avais 11 ans au début de l'étoile jaune.
Judas en train de trahir le Christ ou sur le point de le faire.
Le traître est représenté donc complètement en jaune.
Pourquoi les habiller en jaune si on ne doit pas les voir ?
Et le gilet jaune est devenu le symbole de cette contestation.
On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord.
Ce jaune, maintenant, il a une nouvelle signification.
Je vais l'ouvrir la porte. Je vois le soleil derrière, ouais. Je vois du jaune.
Excellent medley signé Claire Destacant. Michel Pastoureau, je rappelle que vous publiez Jaune, histoire d'une couleur. On l'entend là, ambivalence de la couleur jaune. Hein.
Oui, toutes les couleurs sont ambivalentes et ont leurs bons et leurs mauvais aspects. Ce qui me frappe, moi, historien de la couleur, c'est que à partir du Moyen-Âge, pour le jaune, les mauvais aspects l'emportent quand même sur les bons, alors que pour d'autres couleurs, c'est assez équilibré. Donc c'est un des traits caractéristiques de la couleur jaune. Elle est plus péjorative que positive, mais ça n'empêche pas qu'il y a des aspects positifs, bien sûr. Chaleur, lumière, prospérité, gaieté. De la Croix souligne la gaieté de la couleur jaune dans son journal.
On le disait tout à l'heure, on s'habille peu en jaune. Hein. Or, c'est vrai qu'on est en automne, hein, Jean-Gabriel Coche. Je rappelle que vous publiez L'étonnant pouvoir des couleurs. Mais tout de même, on remarque les personnes qui s'habillent en jaune. Hein, alors que dans l'Antiquité gréco-romaine, le jaune était très porté.
Oui, c'est une couleur qui fait partie de la vie quotidienne et dans le vêtement, surtout à l'époque romaine, c'est la couleur des femmes. Robes, c'est-à-dire palas, stola, robes et manteaux, sont dans la bonne société, disons, de couleur jaune et souvent, chez les plus riches, teinte au safran, une matière colorante qui coûte très cher. Et pour un homme porté de jaune, du jaune, c'est un peu transgressif. Dans le livre, je m'attarde sur une affaire bien documentée.
L'affaire Claudius.
L'affaire Claudius, voilà, c'est un jeune magistrat très ambitieux, un bel âtre qui plaît aux dames et qui s'est mis en tête de séduire la femme de Jules César, rien que ça. Et un soir... alors que cette femme organisait une rencontre où seules les femmes étaient admises, dans la maison de César même, grand pontife, il s'est déguisé en femme, c'est-à-dire qu'il a porté des vêtements jaunes. Naturellement, il a été surpris, dénoncé par sa voix, en quelque sorte, et ça a fait un scandale, c'était très très grave. Et son pire ennemi, c'était Cicéron, qui, dans plusieurs discours, ne manque jamais de rappeler que Claudius a été surpris, déguisé en femme, vêtu en jaune, pour l'histoire. Ça fait des documents très intéressants.
Alors nous vivons dans des sociétés judéo-chrétiennes. Quelle est la place de la couleur jaune dans la Bible ?
Elle est très très réduite. D'une façon générale, la Bible n'est pas un texte très coloré. Les termes de matière sont beaucoup plus nombreux que les termes de couleur. Au fil des versions et des traductions, ça se colorise un peu. Les versions grecques et hébraïques, pas grand-chose. En latin, un petit peu plus. Dans les langues vernaculaires modernes, un petit peu davantage. Mais presque tout tourne autour de rouge, blanc, noir. Pas de bleu dans la Bible, à peine de jaune et pas beaucoup plus de vert. Ce qui fait que les commentateurs de la Bible, que sont les pères de l'Église, n'ont pas grand-chose à dire sur la couleur jaune, alors que l'or, lui, est très très présent dans la Bible. Donc, pendant le Haut Moyen-Âge, on va disserter sur la symbolique de l'or, qui elle aussi est ambiguë, ambivalente.
Alors, dans la chrétienté, le blanc, le noir, le rouge ont des symboliques précises, la pureté du blanc, le noir du deuil, le sang rouge versé par le Christ, mais le jaune n'a pas de symbolique précise.
Non, et dans le vocabulaire latin, il n'y a pas de terme de base qui montre bien que la couleur est encore un peu floue. Est-ce qu'elle a déjà droit ou non au statut de vraie couleur, comme blanc, noir, rouge. Ça va se faire lentement. Le vert la devance dans ce rôle. En revanche, le bleu est en retard. C'est vraiment la dernière couleur qui a accédé au stade de couleur. Et pour l'historien, un bon document, c'est la grammaire, c'est-à-dire dans les textes, est-ce que jaune, bleu, vert, rouge, etc. ne sont que des adjectifs ou est-ce qu'ils sont aussi déjà des substantifs ? C'est un bon document pour dater l'accès au statut de couleur.
Jean-Gabriel Causse, Antoine de Paris nous demande si la blondeur est encore à la mode dans cette fin de décennie.
Alors, la blondeur, c'est pas... Est-ce que c'est un jaune ou pas ? C'est un autre débat.
Ouais, mais il y a un chapitre consacré à la blondeur.
Alors, la blondeur n'est plus très à la mode, si ce n'est, on voit l'héroïne de Game of Thrones, par exemple, qui est teinte en blonde, donc fausse blonde, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'il y a pu en avoir. Et sur les blondes, il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est que, malheureusement, les blagues sur les blondes paraissent fondées dans notre inconscient. C'est-à-dire qu'une blonde, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais paraît moins intelligente. Et ça, c'est absolument terrible. Il y a beaucoup d'études.
C'est un stéréotype, évidemment.
C'est un stéréotype, mais qui se confirme dans tout l'Occident. En Angleterre, par exemple, il y a moins de blondes qui font des métiers dans la bourse, par exemple. Il y a peu de femmes blondes parce qu'on demande à ces personnes de pas être dans la séduction, mais être vraiment dans la compétence. Même une DRH, il y a eu des études qui ont été faites sur des DRH. On montre le même CV avec une femme, la même femme brune et la même femme avec les cheveux blonds. Elle paraît moins compétente en blond. Et là, ce qui est absolument dingue, c'est que même une blonde DRH va juger une blonde comme moins compétente. Donc malheureusement, être blonde, c'est un handicap, ce qui veut dire que toutes les blondes qui réussissent ont vraiment du mérite et sont des femmes particulièrement compétentes.
Michel Pastoureau.
Oui, sous le Second Empire, il y a une stratégie de brune anti-blonde qui est assez fréquente. Quand une femme brune est jalouse d'une femme blonde, elle s'habille en jaune et elle s'assied à côté d'elle. Et ça contribue à la dévaloriser du point de vue.
Au Moyen-Âge, à contrario, le prestige des cheveux blonds est à son paroxysme.
Voilà, au Moyen-Âge central, à l'époque féodale, dans les romans de chevalerie, on s'aperçoit que les grandes héroïnes, Guenièvre, la reine Iseult surtout, Iseult la blonde, ont des cheveux couleur de lumière, couleur d'or. C'est un topos qui vient du monde germanique, il n'est pas là dans la Grèce et dans la Rome antique, même si les Romaines, au Bas-Empire, cherchent à éclaircir leurs cheveux, c'est quand même quelque chose qui vient du monde germanique, cette valorisation des cheveux blonds, y compris d'ailleurs pour les chevaliers, pour les hommes. Et puis, ça va s'atténuer à la fin du Moyen-Âge. Et même, être blond au XVe siècle, c'est moins bien que d'être brun, parce que c'est la cour de Bourgogne qui lance les modes. Et le grand duc de Bourgogne, Philippe le Bon, est très brun, à la fois de peau et de cheveux. Donc, la mode est au teint foncé.
Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Oui.
Alors, vous n'aimez pas beaucoup le jaune, hein?
Oui, je n'ai jamais aimé le jaune. En fait, en tant que personne, en tant que femme, je n'ai jamais porté de vêtements jaunes parce que je n'aime pas ça. Je trouve c'est vrai. Oui, c'est pas une couleur pour moi. Puis
pourquoi ?
C'est voyant.
Pourquoi ?
Voilà.
Pourquoi ?
Et puis aussi le jaune, ça me rappelle le teint jaune, comme vous l'avez dit tout à l'heure en présentant l'émission. Ça me rappelle la mayonnaise, la crise de foie. Ça me rappelle le sac jaune. Du tri sélectif, enfin, c'est vraiment une couleur que je n'apprécie pas.
Et vous nous avez dit hors antenne que ça représentait pour vous le traître.
Oui, alors voilà, et puis le jaune aussi, plus dans la symbolique, du coup, ça représente mes souvenirs d'enfance, mon père qui revenait des grèves, il était ouvrier, et il revenait des grèves, et les jaunes, quand j'étais petite, c'était ceux qui avaient trahi la grève, ceux qui voulaient rentrer dans l'usine, alors que lui faisait grève depuis beaucoup de jours. Et ça m'est resté. Et puis en fait, c'est un concours de circonstances. Novembre dernier, je me suis engagée dans la lutte des gilets jaunes. Et du coup, j'ai dû porter un gilet jaune. Du coup, ça a été très difficile pour moi de mettre ce vêtement jaune en plus, très voyant. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait. Mais comme la lutte était juste et qu'elle l'est toujours, j'ai un peu mis de côté mon a priori sur le jaune. Et c'est devenu comme un soleil, parce qu'en fait, c'était pour moi, c'était un soleil dans la lutte. C'est-à-dire, c'était l'espoir. C'était le contraire de la traîtrise. C'était l'espoir. Ça a inversé mes valeurs, quoi.
C'est passionnant ce que nous dit Sylvie. Elle a inversé ses valeurs par rapport au jaune.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs une tendance assez générale qui va se développer en politique et dans tout ce qui s'y rattache. Depuis au moins 2 siècles, on évitait soigneusement la couleur jaune, parce que c'était la couleur de la trahison, dans le monde syndical également, surtout depuis la fin du 19e siècle. Mais j'ai observé, avant même les gilets jaunes, que comme le nombre des couleurs disponibles pour emblématiser un parti politique est réduit, comme les nuances ne comptent absolument pas, le choix n'est pas très abondant. Donc, faut bien puiser dans les couleurs délaissées, et on va puiser de plus en plus, je pense, dans le jaune. Le mouvement des 5 étoiles en Italie était le premier à le faire. Avant, même en Allemagne, le parti libéral, qui s'allie tantôt à la CDU, tantôt au SPD, l'avait fait. Donc, c'est une tendance qui va nécessairement se développer.
Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir appelé. Michel Pastoureau, d'où vient cette mauvaise réputation du jaune associé à la jalousie, au mensonge, au déshonneur, à la traîtrise, à la duplicité? Cité. Ça remonte au Moyen-Âge ?
Ça remonte au Moyen-Âge, c'est assez difficile à cerner. Je suggère quelques pistes dans mon livre. Il y a d'abord le jaune, couleur des humeurs du corps pas très noble, la bile et l'urine. Ça contribue à lui nuire pas mal. Et puis surtout, il y a des jeux de mots entre le nom qui désigne la bile en latin, fiel en français, et le nom du traître, félon, qui vient des langues germaniques. Et dans la culture médiévale, les mots ont un poids considérable et des symboliques se construisent sur des jeux de mots. Et je pense que c'est le point de départ.
Et puis le jaune n'est pas une couleur qui est signe de vigueur et de bonne santé. Dire à quelqu'un qu'il a le teint jaune, le teint cireux, c'est rarement flatteur.
Voilà, dans la théorie des humeurs, c'est la couleur négative, en quelque sorte, de la bile et de l'urine, donc. Et puis c'est la couleur du vieillissement, c'est la couleur du déclin. Elle est jamais prise en très bonne part dans le monde de la médecine, qui occupe une place très importante dans la symbolique des couleurs à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne.
Et puis c'est aussi la couleur de l'envie, l'un des 7 péchés capitaux.
Voilà, les péchés capitaux reçoivent leur couleur à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XVIIe, ça joue un rôle important. Le jaune, c'est l'envie, et parfois l'avarice, qui peut être verte aussi. Le rouge, c'est la colère, c'est l'orgueil, c'est la luxure. Et le blanc, c'est la paresse.
Pourquoi Judas est-il si souvent représenté en jaune, ou portant une pièce vestimentaire jaune ?
Alors, justement, à partir du moment où le jaune est une mauvaise couleur et se greffe sur l'idée de félonie, fiel, jeu de mots, couleur du mensonge et de la trahison, Judas est l'apôtre félon, celui qui a trahi le Christ, donc on lui donne, dans l'iconographie évidemment, les évangiles ne parlent pas du tout des vêtements de Judas, on lui donne une robe jaune, est souvent associé à des cheveux roux. Ce sont 2 attributs iconographiques négatifs, et ça va durer plusieurs siècles.
À partir de quelle époque les Juifs ont-ils porté un signe vestimentaire distinctif, très souvent de couleur jaune? Je pense évidemment au bonnet, à la rouelle imposée aux Juifs, souvent de couleur jaune.
Ça commence après l'an 1000 au 12e et surtout ça s'accentue au 13e siècle. L'idée est que les communautés juives et les chrétiens se mélangent pas, notamment du point de vue du mariage. Donc pas partout, mais dans certaines villes et régions, les juifs doivent porter un signe distinctif. Il n'est pas toujours jaune, il a des formes variées, c'est un insigne vestimentaire. Mais le cas le plus fréquent, c'est quand même un insigne circulaire, la rouelle, de couleur jaune. Il n'y a pas un système à l'échelle européenne, mais il y a des tendances, et j'y vois, moi, l'ancêtre de l'étoile jaune. On ne sait pas si c'est une couleur très dévalorisante imposée aux Juifs pour les exclure et les dégrader, ou si c'est les Juifs eux-mêmes qui portaient peut-être plus de jaune que les chrétiens, des pièces de vêtements, et donc ça a fini par faire un système qui s'est inversé, ça n'est pas très clair. Mais en tout cas, on voit bien que l'étoile jaune a des racines à la fin du Moyen-Âge.
Tiens, à ce propos, je vous propose d'écouter Daniel Cohn-Bendit dans la matinale de France Inter le 4 décembre 2018.
Je suis allergique au jaune, pour des raisons personnelles. Je peux pas mettre quelque chose de jaune. Peut-être les gens comprendront.
L'étoile jaune, j'imagine.
Exactement.
Michel Pastoureau.
Oui, ben c'est un témoignage extrêmement fort. Je pense que ça s'inscrit dans la longue durée et l'usage non seulement dégradant, mais pire que ça, quand l'on a fait du jaune, à dévaloriser la couleur. Alors, on parlera tout à l'heure d'autres pratiques qui ont valorisé positive. Le jaune. Mais voilà, positive, ça n'est pas complètement négatif. Mais ça peut être très douloureux et impossible, même pour certaines personnes encore aujourd'hui, de porter du jaune.
Jean-Robert Ilkos.
D'ailleurs, au sujet de ce que vous dire Monsieur Cohn-Bendit, dans les années 50, en Israël, une étude sur les couleurs préférées a montré que le jaune était vraiment la couleur que les gens, là, pour le coup, vraiment détestaient. Et la même étude a été faite 20 ans plus tard. Et là, le jaune avait repris un petit peu de couleur, si je peux dire, et redevenait une couleur un peu plus acceptable. Donc, cette idée d'étoile jaune est en train un petit peu de disparaître.
Allez, il est temps de retrouver la chronique pas son genre de Julia Foyce.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
C'est un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'es un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Elle porte du jaune ce matin, en l'honneur de Michel Pastoureau, mais pas que.
C'était cadeau.
Alors on aurait pu s'en douter, Julia Foyce, le rose, vous n'aimez pas vraiment, vous n'adorez pas.
Esprit de contradiction peut-être, allez savoir, je suis loin d'être la seule en tout cas. Dites-moi Ali, à chaque fois qu'on pose la question aux Français, quelle est votre couleur préférée, ils répondent quoi à votre avis?
Le bleu.
Bleu. Oui, évidemment. Couleur des garçons aujourd'hui et depuis un siècle maintenant, couleur de l'héritier mâle. Et on ne s'est pas encore tout à fait débarrassé de l'idée que c'était quand même mieux un mâle, un rapport à la transmission du nom et du patrimoine, mieux qu'une petite grue à qui il faudra faire un trousseau pour qu'elle parte fabriquer d'autres petits mâles dans une autre famille, l'ingrate. L'histoire pesant toujours son petit poids dans l'inconscient collectif, dans une belle symétrie. Dites-moi à votre avis, Ali, quelle est le plus souvent la couleur la moins aimée des Français?
On a dit le jaune.
Mais non, le rose, à la fois, je les comprends, au bleu, la force, le courage, la puissance royale, au rose, la délicatesse, la fragilité et l'éphémère d'un végétal. Au bleu, Louis XIV, au rose, Barbara Cartland, impératrice douairière, couleur bonbon, papesse fuchsia du roman de gare, qui non seulement s'habillait exclusivement en rose, mais qui a aussi, et durablement, inondé la planète de blondes ingénues, douces, candides, voire un peu cruches, éveillées à elles-mêmes, voir au monde, grâce à l'homme et à l'amour, mais attention, hein, un amour chaste, pur, tendre, bref, un tout petit peu chiant quand même. Et oui, ça, c'est aussi un petit peu agaçant. Rose, c'est le nom, c'est la couleur de cette littérature qui nous coince à jamais dans nos donjons de princesse, éternel personnage secondaire d'une planète toute bleue, quand l'autre moitié de l'humanité a, elle, tout le loisir de la conquérir. Ados, jeunes adultes, on en a été gavés un peu comme quand, enfant, on se jetait sur la bibliothèque rose. Et là, le rose est couleur d'enfance, d'innocence, au fond, d'ignorance, car voir la vie en rose, c'est quoi? C'est faire preuve, certes, d'une sacrée dose d'optimisme, mais aussi d'un manque cruel de lucidité. Hein. Attribuer le rose aux filles, c'est les confiner dans cette case bien sage, où elles n'auront ni savoir, ni pouvoir. C'est les corseter dans un carcan guimauve dont elles ne sauraient s'émanciper. C'est le tailleur Chanel de Jackie Kennedy, première dame éternelle, icône irréprochable, impassible, accessoirement muette ou presque. C'est le fourreau de Marilyn dont les hommes préfèrent les blondes, femmes enfants voraces, vénales, fausses, cruches et vraies greluches. C'est aussi la robe Vichy de Bardot, la petite fiancée c'est des Français et fantasme sur pas. Du coup, c'est là que ça se complique.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Que le rose, c'est aussi le carré rose sur les films érotiques, c'est le Minitel rose, et que le clitoris est appelé bouton de rose, et que la feuille de rose est une caresse du Kama Sutra, et qu'alors le rose sent aussi le soufre, le sexe et la luxure. C'est le trouble, c'est le flou. Et ça n'est pas tout à fait un hasard si le triangle des homosexuels déportés était rose, lui aussi, car le rose, avant d'être considéré comme une couleur à part entière, était tout simplement un avatar du rouge, sorte de rouge délavé, si vous voulez. Et le rouge, c'est quoi? C'est longtemps, la couleur des robes des prostituées, c'est la lampe que l'on met à l'entrée des bordels, c'est la couleur de la chair ardente, explosive, de la passion débridée, couleur du péché, oui, la pomme est rouge, elle aussi. Résultat des courses, nous, les filles en rose, on se retrouve complètement coincées, écartelées et compressées, à la fois, on a l'habitude, mais quand même, en rose, on est l'innocence et la tentation, le petit ange et le démon, qu'on soit totalement infantilisé ou hypersexualisé, comme toujours, on est piégé face à deux injonctions aussi fortes, aussi ancrées que parfaitement contradictoires. Et le pire, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une belle arnaque.
Laquelle?
À l'origine, le rose est la couleur des hommes parce que c'est une déclinaison du rouge qui est longtemps celle de la puissance et de la force. Sur les tableaux du Moyen-Âge ou de la Renaissance, les rois posent souvent en tunique rose. Les femmes, elles, sont en bleu, couleur de la Vierge Marie. Sauf que, entre autres choses, évidemment, rien ne s'expliquant jamais par un seul facteur. Au XVIIIe siècle, la Pompadour s'entiche du rose, se met à emporter, à s'enfarder. Ce n'est pas très étonnant quand on connaît l'esprit, la culture, la soif de liberté de la marquise, qui donne d'ailleurs son nom à une rose. Sauf que la favorite du roi est aussi admirée que détestée. Devenant sa couleur, le rose se met à incarner la futilité, la versatilité, la manigance et la fausseté. On en est là quand, au début du XXe siècle, on se met à fabriquer des layettes sexuées. Et les petites filles, évidemment, récupèrent le rose. C'est pour ça que personnellement, je préfère le violet. C'est l'une des couleurs des mouvements féministes depuis les suffragettes et dans le monde entier. Pourquoi le violet? Eh ben parce que c'est du rose avec du bleu dedans, c'est du cul, c'est du cucu. Oui, mais avec du pouvoir dedans.
Le regard de Michel Pastoureau.
Oui, le rose devient une sorte de nuance de rouge au XVIIIe siècle. Mais avant, le rose, qui est une couleur qu'on a du mal à fabriquer, du mal à nommer surtout, est assimilé à un jaune. C'est une nuance de jaune, le rose. Et en effet, dans les enquêtes d'opinion, c'est une couleur mal aimée en Europe et en Occident. Il est en général avant-dernier dans le classement des 11 couleurs, parfois dernier, alors qu'au Japon, par exemple, il est très très bien classé.
Jean-Gabriel Cos.
Oui, en même temps, le rose, c'est une couleur... L'expression « voir la vie en rose » a été prouvée scientifiquement. C'est-à-dire, on a montré à des personnes des images de bonheur et on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau, quelles étaient les zones qui étaient activées. Et on leur a montré des aplats de couleur rose et on se rend compte que la majorité des zones activées sont les mêmes.
Faudrait prendre comme cobaye Julia Fox sur ses études.
Reste en jaune.
La chronique Passons Genre en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Le programme de Passons Genre demain à 20h.
À vendredi, on reçoit François de Tinguely et Agnès Valk pour parler de la famille. Vous savez, on va entendre ce week-end un enfant égale un papa et une maman. Nous, on va se demander, mais depuis quand c'est comme ça en fait?
Allez, aimez-vous la couleur jaune ou alors pas du tout? 01 45 24 7000.
Le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?
Paradis, vague à l'âme sœur.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h44, on s'intéresse ce matin à la couleur jaune en compagnie du grand historien Michel Pastoureau et avec le designer Jean-Gabriel Cos. Question par courriel de Patrick, pourquoi les syndicats liés au patronat sont-ils traités de jaune, Michel Pastoureau?
Oui, ça date des grandes grèves de la fin du 19e siècle et ça a perduré par la suite. C'est-à-dire que pour les syndicalistes ouvriers, roulés par le patronat, c'est une forme de trahison. Donc on donne à ces syndicats qui sont associés au patronat la couleur jaune, qui est la couleur des traîtres. Et on a, pendant jusqu'à la Première Guerre mondiale, fréquemment syndicats rouges contre syndicats jaunes. Et l'expression est restée un jaune, c'est un
traître. C'est pas très flatteur.
Oui.
Pourquoi le jaune n'est-il la couleur des cocus, des maris trompés ?
C'est la même idée, c'est ça qui est très intéressant. Le jaune, c'est la tromperie, qu'on soit du côté des trompeurs ou du côté des trompés. Et alors, au théâtre, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, en effet, les trompés portent souvent un costume jaune ou une pièce de vêtement jaune. Hein. Donc on a à la fois les trompeurs et les trompés.
Question d'Éric, d'où vient le carton jaune distribué par les arbitres de football ?
Alors, il apparaît dans les années 70. C'est à la demande des joueurs eux-mêmes et des arbitres que, en raison du problème des langues, on voulait un signe bien visible pour faire comprendre les décisions. Ça a mis du temps à émerger. Je crois que la première fois, c'était pendant la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Pour le match d'ouverture, le premier carton jaune est sorti. C'est intéressant parce que deux jaunes égale un rouge. Hein. Donc, le rouge, c'est le superlatif du jaune dans ce système-là. Et puis ça s'est imposé, c'est sorti des terrains de sport, on dit carton jaune assez fréquemment pour signaler, attention, une faute a été commise.
Et quelle est l'origine du maillot jaune porté sur le Tour de France ?
Ah, ça c'est bien connu, c'est 1919, en plein Tour de France, le patron du Tour et du journal Lotto, organisateur, décide d'habiller le premier du classement général, au cours d'une étape Grenoble-Genève, je crois, d'un vêtement distinctif de couleur jaune, qui est la couleur sur laquelle on imprimait le journal Lotto. C'est un papier sans doute pas très beau, mais c'est un coup de génie parce que ça promeut la couleur jaune, ça fait beaucoup pour la mythologie du Tour de France, et puis l'expression maillot jaune, là encore, quitte le domaine du cyclisme et du sport et s'emploie dans des tas d'autres domaines, telles firmes et maillot jaune dans la pétrochimie, dans etc. C'est un coup de génie.
Jean-Gabriel Cosse, beaucoup de questions sur la couleur des émoticônes, des émojis. Pourquoi sont-ils jaunes ?
Alors les émojis sont jaunes parce que l'ancêtre de l'émoji, qui est le smiley, était jaune. Alors le smiley, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il a été inventé deux fois. Et les deux fois, il a été inventé, donc le graphisme est très simple, hein, deux yeux, une petite bouche qui sourit, donc un sourire avec les neurones miroirs, on a envie de sourire. Mais inconsciemment, les deux designers qui ont créé cet emoji l'ont fait jaune. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, parce que le jaune, c'est la couleur associée à la bonne humeur. Quand on se sent de bonne humeur, on le voit en jaune. Alors, ce qui est amusant sur
c'est associé au soleil aussi.
Associé au soleil, c'est un petit soleil que l'on a devant soi. Et d'ailleurs, ça a très très bien marché. La première fois, c'était Harvey Ball aux États-Unis, 1963, qui, pour une compagnie d'assurance, lui avait demandé d'avoir une image un peu plus légère, donc a fait ce fameux smiley. Et après, Cocorico, ce smiley vient de la France. C'est avec François, où c'est un pigiste. On est en 1971, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, le moral des Français est assez bas. Et on propose cette personne, ce pigiste, propose à la rédaction de mettre une bonne nouvelle par page de François. Et il fabrique ce petit emoji jaune qui aura un grand succès parce que là, je crois qu'on est, les chiffres de 2016, c'est 2,3 milliards de SMS envoyés avec cet emoji.
Michel Pastoureau, qui a revalorisé le jaune à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e? Ce sont les peintres ?
Les peintres et les sportifs. Donc le jaune, en effet, se revalorise avant la Première Guerre mondiale. D'abord les peintres, on en a parlé, Van Gogh, Gauguin, les fauves, et puis toute une partie de l'art moderne redonne un statut aux couleurs vives et le jaune en fait partie. Et puis sur les terrains de sport, pas tout de suite, hein, le sport moderne est né dans les collèges écossais vers 1860, mais au début tout est noir et blanc, puis noir, blanc, rouge, bleu, puis enfin vert et jaune font leur apparition à partir des années 1900 pour distinguer des clubs et des équipes. Et en effet, aujourd'hui, l'endroit où on voit le plus de jaune, ce sont les terrains de sport. Et les pistes de ski.
Eliane nous dit, le jaune fait partie de ma vie depuis que j'ai visité le jardin et la maison de Monet à Giverny. Ma cuisine est jaune et associée au bleu et au rouge. C'est une couleur lumineuse que j'apprécie beaucoup dans mon intérieur. Jean-Gabriel Cosse, c'est beaucoup utilisé en décoration, là, en cette fin des années 2010, le jaune.
Oui, prenez tous les salons de déco, que ce soit Milan ou Paris. On a vraiment beaucoup, beaucoup de jaune, à peu près tous les jaunes.
Quelle nuance de jaune, justement?
Alors, on a un peu tout. On a un jaune qui revient bien. Vous voyez, c'est le jaune du formica des cuisines de nos grands-parents. Vous voyez, un jaune assez léger, un sorte de beurre frais, un peu plus désaturé, un peu plus frais. On a des ficelles, on a beaucoup de safran, on a aussi du moutarde. Donc on a vraiment toute une palette de jaunes, parce que le jaune, vraiment, c'est la couleur qui s'éclaire le mieux. Enfin, Goethe disait aussi, c'est la porte d'entrée à la lumière, c'est-à-dire que c'est la couleur qui s'associe avec et la lumière naturelle et la lumière artificielle. Donc avoir du jaune, c'est avoir un soleil chez soi. Toutes les personnes, enfin voilà, vous vous levez le matin, avant même d'ouvrir les volets, il fait déjà un grand soleil chez vous, puisque vous avez un mur jaune.
Bonjour Béatrice.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes artiste peintre, hein, c'est ça?
Oui, et je suis ravie à double titre de passer à l'antenne ce matin. D'une part parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de M. Pastoureau, et je suis en ce moment en train de lire Le Vert.
D'accord.
Ce sont des livres passionnants que je recommande à tous les auditeurs. Et bravo M. Pastoureau. Et pour parler du jaune, je voudrais dire aussi que le jaune, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, aussi bien dans la peinture, aussi bien dans la décoration. Et comme je viens de l'entendre, c'est le soleil dans la maison, aussi bien dans les vêtements. J'avoue que j'aime porter des pullovers jaunes ou des chemisiers jaunes. Je trouve que c'est tout de suite le soleil.
Vous allez devenir copine avec Julia Foyce, hein.
Je vous aime beaucoup.
Et puis en peinture, je dis souvent, même toujours à mes élèves, le jaune et le rose sont un couple inséparable. J'explique. Dans une couleur jaune, vous mettez une toute petite pointe de rose et tout de suite le jaune est réchauffé. Et à l'inverse, vous mettez dans du rose une toute petite pointe de jaune et ce rose est illuminé. Et je dis toujours vraiment que ce couple est inséparable.
Michel Pastoureau.
D'autant plus inséparable que le rose, c'est du jaune pour les sensibilités anciennes.
Jean-Gabriel Cosse.
Et moi, j'irais même plus loin. Le jaune va... C'est peut-être la couleur qui va avec tout. Il y a pas de couleurs qui ne vont pas avec du jaune. Donc en déco, vous ne savez pas quoi mettre comme couleur. Si vous avez des murs bleus, verts, rouges, etc., ben mettez du jaune. Ça va franchement avec tout.
Merci beaucoup Béatrice. Yolaine nous dit, je viens de me séparer et donc je suis obligée de déménager afin de surmonter mon chagrin et mettre de la joie dans mon nouveau nid. J'ai mis du jaune partout. C'est une maison en bois clair. J'ai mis des rideaux jaunes, un tapis jaune dans la chambre de mes enfants, des coussins jaunes. Même les torchons sont jaunes.
Ah oui, quand même. Quand même. Du calme.
Alors, en chambre, faut juste faire attention un petit bémol sur le jaune, comme c'est une couleur très dynamisante. C'est un peu comme le rouge, c'est-à-dire que les personnes qui ont des insomnies, on peut avoir du jaune même dans sa chambre, mais plutôt en touche. C'est-à-dire que si on a une chambre entièrement jaune, on risque d'un peu plus mal dormir.
Est-ce que vous confirmez le mail de Gâteau? Qui nous dit, ne vous souriez pas comme ça, Julia Foyce, c'est son nom. Aux États-Unis,
ce mec balance.
Aux États-Unis, on n'utilise pas le. Je suis un traître, je suis un jaune, vous savez. Aux États-Unis, on n'utilise pas le jaune en marketing pour les produits de qualité, car cette couleur est systématiquement associée aux prix cassés, aux promos agressives, aux bas de gamme, à cause des panneaux utilisés par la grande distribution.
Exactement, à cause du fluo. Le jaune est une couleur qui est en fluo, marche très très bien. À l'inverse, vous allez en Chine, où le jaune était la couleur de l'empereur. C'est une couleur très chic. Jaune et or, voilà, donc c'est vraiment culturel, selon les pays, on a des perceptions différentes.
C'est vrai que quand on voit des grosses promotions sur Internet, il y a souvent un bandeau jaune et noir.
Voilà, parce que c'est l'une des couleurs qui est d'ailleurs le gilet jaune au départ, c'est parce que c'est le fluo le plus facile à fabriquer est jaune.
Michel Pastoureau, pourquoi en France les boîtes aux lettres de la Poste sont-elles jaunes?
Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas que les boîtes à lettres, il y a les taxis, l'origine est la même. C'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a une famille lombarde devenue allemande qui prend de l'importance à la fin du Moyen-Âge, les Thurn und Taxis, qui sont chargés par l'empereur d'organiser la poste. Et elle le fait d'abord dans le Saint-Empire, puis à l'échelle de l'Europe, et cette famille a une livrée jaune, et la couleur jaune de la famille, de la dynastie, ça devient une famille princière, les tournes taxis, des familles les plus riches du monde aujourd'hui, donnent sa couleur de livrée, sa couleur emblématique aux voitures postales hippomobiles. Et puis, elle invente au 19e siècle les taxis hippomobiles qui deviendront les taxis automobiles un peu plus tard. Ça explique donc que les boîtes à lettres et les taxis aient la même couleur.
Les taxis jaunes new-yorkais.
Voilà. Alors, on dit parfois que dans les grandes villes, les taxis jaunes se voient mieux dans le brouillard, la pollution, etc. Non, il y a des racines historiques bien précises.
Jean-Brel Cos.
Mais c'est en même temps prouvé également. C'est-à-dire que vous prenez à Singapour, 9% d'accidents en moins pour les taxis jaunes par rapport aux taxis de couleur foncée. Et à New York, si les taxis sont jaunes, ça vient d'un monsieur qui s'appelle John Hertz, qui était propriétaire des taxis de Chicago et qui s'est dit, pour mes taxis, je voudrais avoir le moins d'accidents possible, parce qu'au début du XXe siècle, les taxis avaient de très mauvais freins. Et il a regardé quel était le contraste le plus fort. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas noir et blanc, c'est noir et jaune. Voilà pourquoi il a créé la société de taxi de New York, qui a pour le coup très bien marché, puisqu'il ne reste plus que celle-là.
Il a dû s'inspirer de cette famille, Michel
Oui,
Pastoureau.
Bien sûr, les taxis sont jaunes avant l'automobile. Il y a des taxis à chevaux, et c'est un jeu de mots sur le nom de la famille. Hein. Tourne un taxis, et ça te crée le mot taxi.
Jean-Gabriel Cos, le jaune est tout de même présent dans notre vie quotidienne, hein, dans l'alimentation.
Dans l'alimentation, oui, bien sûr.
Les œufs, le miel, le safran, la moutarde,
oui, etc. Oui, c'est une couleur. De toute façon, toutes les couleurs en alimentation sont appétissantes, sauf le bleu. Vous prenez un peu, enfin, tout peut être appétissant, sauf le bleu. Vous prenez les cuisiniers, ils prennent la palette de toutes les couleurs. Il y en a qu'une qu'ils excluent, c'est le bleu. Donc effectivement, le jaune en fait partie, le rose en fait également partie.
Mais est-ce que c'est très utilisé dans le domaine du packaging, par exemple, de l'emballage? Vous êtes un peu spécialiste aussi du domaine. Oui. Est-ce qu'on utilise le jaune?
Alors justement.
Et avec quelle connotation? Parce que le noir, on sait que ça a une connotation associée à un produit de qualité, de haute qualité, de luxe. Mmh. Et le jaune, s'associe à quoi?
Comme disait votre auditeur tout à l'heure, le jaune peut faire assez vite bas de gamme. Donc on l'évite. En même temps, le jaune, comme je vous le disais aussi, le contraste le plus fort, c'est jaune et noir. Pensez au, je ne sais pas si on peut citer les cachous, la jaunie, qui sont jaunes et noirs. On ne les oublie pas parce que vraiment, c'est très très fort. Donc c'est une couleur plutôt de promotion, plutôt pour attirer dans les linéaires, qu'une couleur très esthétique, effectivement.
Michel Pastoureau.
Oui, c'est un problème d'écart, c'est-à-dire dans une société où le jaune est peu présent, dès qu'il y a quelque chose de jaune, ça attire l'œil. Dans une société où le jaune serait omniprésent dans la vie quotidienne, il rentrerait complètement dans le rang et ce serait une couleur rare, le gris peut-être, qui deviendrait précieux.
Ah ben voilà pourquoi François Pau est en jaune. C'est ça.
Oui, mais c'est vrai que vous reprenez le rayon boisson, vous rentrez dans le linéaire, l'orangina, vous l'avez trouvé dans la première seconde. Enfin, tout ce qui est jaune va effectivement ressortir.
C'est une couleur d'avenir, le jaune, Michel Pastoureau?
Ah oui, moi si j'étais un designer, un créateur, un styliste, j'investirais dans le jaune parce que sa place est faible dans la vie quotidienne, dans nos appartements, dans le spectacle de la rue. Je pense pas qu'il puisse tomber plus bas, si je puis dire, donc il y a une place à prendre.
Alors, pour moi, il est en train de remonter vraiment depuis 5 ans, et vraiment, on le voit en Chine, dans la mode, où on a essayé de lancer le jaune, qui n'est plus réservé aux empereurs, et les Chinois achètent énormément de jaune, et ça devient une couleur qui, je pense, moi, sera vraiment une couleur d'avenir et qui restera longtemps.
Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Votre superbe livre illustré, Jaune, histoire d'une couleur, sort aujourd'hui au Seuil. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Cos. L'étonnant pouvoir des couleurs est publié aux éditions du Palio. Demain, à quoi reconnaît-on quelqu'un de bien, une personne authentiquement gentille? Nous recevrons la philosophe Laurence de Villers et le psychologue Ilios Kotsou. À suivre, Nagui et sa bande originale.